France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, explore le temps, l'histoire d'un homme qui a fait vaciller la Troisième République, le général Boulanger. À la fin de la décennie 1880-1890, ce militaire charismatique devient l'homme le plus populaire de France. Ministre de la guerre, adulé par la troupe, porté par la rue, il incarne pour beaucoup la revanche contre l'Allemagne et le rejet d'un régime parlementaire jugé corrompu et impuissant. Mais le phénomène Boulanger ne se limite pas à l'homme providentiel. Il est aussi une créature nouvelle, celle d'une vie politique désormais façonnée par les journaux à grand tirage, les images, les slogans. Et autour de lui se cristallisent des colères venues de tous bords, radicaux, républicains, déçus, nationalistes, monarchistes, bonapartistes. C'est ainsi que le boulangisme naît, dans un mélange explosif de populisme, de culte du chef et de ferveur patriotique. De ce point de vue, les résonances avec ce que nous vivons aujourd'hui sont saisissantes. Notre invité aujourd'hui, Bertrand Joly, auteur de l'ouvrage intitulé « Aux origines du populisme, histoire du boulangisme », livre publié en 2022 aux éditions CNRS. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat aujourd'hui avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Florence de Talouette, coordination Franck Cognard, chargé programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Ronxa.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Automne 1872. Dans un bureau glacé du camp de Villeneuve-l'Étang, aux portes de Paris, le jeune colonel Georges Boulanger rompt le sceau d'une enveloppe à son nom. Quelques lignes sèches l'informent que la commission de révision des grades, chargée d'examiner les promotions accordées pendant la guerre contre la Prusse, le rétrograde. Pour le jeune Boulanger, c'est un coup de massue. Pour l'armée, un simple réajustement administratif. Colonel aujourd'hui, lieutenant demain. Boulanger relit le document. Une fois, deux fois. Comment ça ? Les promotions gagnées sous le feu, sa blessure en Italie, son fait d'armes à Champigny en décembre 1870, quand il tient ce rang au cœur de l'un des combats les plus meurtriers de la guerre, tout ça balayé d'un trait de plume ? Boulanger ne décolère pas. Incapable d'avaler l'affront, il attrape une feuille et d'un geste qui dit autant son audace que son insubordination, il rédige une lettre à l'attention de l'Assemblée nationale dans laquelle il demande qu'elle se prononce sur l'injustice dont il se dit victime. Et il menace de démissionner de l'armée. Quelques jours plus tard, devant l'absence de réponse, il rédige à un ami une autre lettre qui dit son ressentiment.
À l'abattement a succédé une sorte de rage froide contre ceux qui m'ont fait tant de mal et poussé à la roue. Voilà, je le sens, le vrai motif qui me fait rester dans l'armée. Je veux pouvoir me venger. Et le jour arrivé, je serai impitoyable. Je vous prie de le croire.
15 ans plus tard, en octobre 1885, la France vote et les Républicains ne parviennent pas à s'unir. Le verdict du second tour est sans appel. Pour la première fois depuis la naissance de la Troisième République, le régime vacille. À l'Assemblée, les ennemis de la République, monarchistes et bonapartistes, jusque-là tenus à l'écart du pouvoir, font une percée spectaculaire. Leur stratégie a fonctionné. Ils ont fait cause commune. Une alliance de circonstances, comme il avait fait lorsqu'ils ont élu Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République. Un continuum. Les républicains modérés de droite, eux, restent en place, mais sortent affaiblis. Et à gauche, les radicaux sont balayés. Le contexte y est pour beaucoup. La France traverse une crise profonde. Ralentissement économique, faillites en chaîne, chômage qui progresse, prix agricole en chute libre. La République déçoit. Alors, certains sont nostalgiques et se tournent vers le passé. L'Empire, bien sûr, et pour les plus mélancoliques, la monarchie. À la tête de ce régime fragilisé, Charles Freycinet cherche un ministre de la guerre capable d'incarner l'ordre et la stabilité. Et là, un nom s'impose, Georges Boulanger. 50 ans, formé à Saint-Cyr, blessé en Kabylie et au Cochinchine, décoré plusieurs fois, républicain pour la gauche, patriote pour la droite, un homme taillé pour le consensus. Mais d'autres n'y voient qu'un opportunisme, à commencer par Henri de Breteuil, républicain, député de droite.
Il croyait à l'éternité de l'Empire et criait « Vive l'Empereur !» avec un entrain sans pareil. De 1871 à 1876, comme les chances de restauration monarchique étaient sérieuses, il fut à point nommé très légitimiste et très humble serviteur de M. le duc d'Aumale. Après, la République ayant vent arrière, il profita de ses allées et venues à Paris pour se faire agréer par M. Clémenceau, qui lui accorda définitivement sa confiance. Il n'a jamais été embarrassé par des convictions politiques. Il cesserait d'être républicain avec autant de facilité qu'il l'est devenu. Il appartient à cette catégorie d'envieux qui ne pardonne jamais à ceux dont il jalouse la situation sociale. Enfin, il ne peut oublier que M. le duc d'Aumale a écrit sur ses notes « Officier de valeur et de mérite, mais homme mal élevé ».
Et ce que Freycinet ignore en nommant Boulanger, c'est que celui-ci attend cette nomination depuis longtemps. Installé à Paris depuis des mois, il n'a eu de cesse de se montrer dans les cercles militaires, comme dans les salons politiques. Il voulait entrer dans la lumière, c'est fait. Dès ses premières semaines rue Saint-Dominique, le ton est donné. Boulanger simplifie l'équipement, remplace la gamelle par l'assiette, la paillasse par le sommier, impose le fusil Lebel et le repos complet le dimanche, autorise le port de la barbe et modernise l'instruction. Surtout, il écoute les plaintes, les humiliations. En somme, ce nouveau ministre de la guerre secoue une armée engourdie dans ses routines. Dans la troupe, on remarque ce style inédit. Enfin un ministre qui se soucie des soldats. La gauche radicale, elle, salue ce geste envers les petits. De droite à gauche, sa popularité s'installe. Elle va culminer lors des grèves de Decazeville. Dans le bassin minier de l'Aveyron, la situation depuis des semaines est explosive. Les salaires sont bas, les conditions de travail toujours plus dures, la colère monte jusqu'au point de rupture. Le 26 janvier 1886, Jules Vatrin, sous-directeur des mines, est encerclé par des ouvriers, attrapé et bientôt projeté par une fenêtre. Il meurt sur le coup. Aussitôt, la compagnie minière appelle à l'aide. L'armée est requise et on promet des concessions salariales pour calmer le jeu. Alors Boulanger envoie la troupe. D'ordinaire, le scénario est écrit d'avance. Soldats en ligne, fusils chargés, baïonnettes au canon. La démonstration de force. Mais cette fois, rien. Non, Boulanger donne un ordre clair, ne pas tirer sur les grévistes. Une première. Il s'en félicite.
L'armée est donc à Decazeville, immobile, l'arme au pied. Elle ne prend point parti. Elle n'agit pas plus en faveur de la compagnie contre les mineurs qu'elle n'agirait demain en faveur des mineurs contre la compagnie. On a dit qu'il y a à Decazeville autant de soldats que de mineurs. L'exagération est évidente. Mais je vous dis, ne vous en plaignez pas, ne nous le reprochez pas, car peut-être qu'à l'heure qu'il est, chaque soldat partage avec un mineur sa soupe et sa ration de pain.
Dans un pays et une époque habitués aux répressions violentes, ce silence des armes marque les esprits. Très vite, sans discours ni promesse, la popularité de Boulanger décolle. Il comprend alors l'essentiel. La bataille ne se joue pas seulement dans l'armée, mais dans l'opinion. Il met donc en place un service chargé de surveiller les journaux, de répondre aux attaques et de diffuser des informations favorables à sa personne. La communication et la propagande deviennent son arme principale et l'engouement pour Boulanger va croissant. Pour s'imposer, il n'hésite pas non plus à frapper jusque parmi ses anciens soutiens. Le 22 juin 1886, une loi interdit aux anciens souverains et à leurs héritiers de séjourner en France et les exclut de l'armée. Boulanger notifie lui-même les princes d'Orléans. Parmi eux, le duc d'Aumale, qu'il avait aidé au début de sa carrière. Le message est clair, la République montre sa force. Et Boulanger en est le visage. Sa popularité culmine quelques jours plus tard, le 14 juillet 1886 à Longchamp, lors de la grande revue militaire, vitrine solennelle de l'armée et de la nation. Ce jour-là, Boulanger apparaît à cheval, tenue impeccable, allure maîtrisée, sabre au côté. Il le sait, tout Paris le regarde, car il incarne la vigueur retrouvée de l'armée française. Entouré de 4000 soldats, les acclamations fusent. Vive le ministre de la guerre, vive Boulanger. Le soir, dans les bals populaires et les cafés-concerts, on chante encore son nom, le chansonnier Paulus en tête.
Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma sœur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Tout à coup on crie « Vive la France !» Grédier, c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur qu'aime les pompiers acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains quand défilent les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris en reluquant l'Espaillie. Moi je faisais qu'admirer notre brave général Boulanger.
Dans les couloirs du pouvoir, l'énergie de Boulanger fascine autant qu'elle inquiète. Le ministre aime la scène. Trop. Et derrière le réformateur se profile déjà une autre figure, le général Revanche. En septembre 1886, lors de manœuvre, près de Libourne, il lâche. La France doit désormais suivre une politique hautement offensive. Une phrase lourde de sens, reprise par le journal Le Soleil. Et la déclaration fait l'effet d'une bombe. Boulanger voudrait la revanche contre l'Allemagne. Il dément, trop tard. Aux yeux du gouvernement, Boulanger met la sécurité de la France en danger. Alors, la tension culmine. En avril 1887, Guillaume Schneebele, commissaire français des chemins de fer en Alsace-Lorraine et espion français, est convoqué pour un entretien avec un fonctionnaire de la police allemande. Le rendez-vous est fixé à Pagny-sur-Moselle, à quelques mètres de la frontière. Schneebele s'y rend. Au moment précis où il franchit la ligne, il est arrêté par les Allemands. À Paris, le choc est immédiat. Pour la première fois depuis longtemps, le pays se sent provoqué. Bismarck cherche la guerre, ça recommence. La bourse chute, la presse se fait soudain prudente, et les Français conduits revanchards se révèlent aussitôt pacifistes. Au Conseil des ministres, Goblet, le chef du gouvernement, résume le dilemme. On ne peut pas faire la guerre pour un commissaire de police, mais on ne peut pas non plus avaler l'incident comme si de rien n'était. Jules Grévy, le président de la République, s'accroche à sa ligne. Éviter la guerre à tout prix, rester sur le terrain du droit et de la diplomatie. Boulanger se demande alors s'il ne faut pas déployer des détachements de cavalerie légère le long de la frontière. Parce que le geste serait fort, oui, mais risqué aussi.
Les forces allemandes en Alsace-Lorraine sont supérieures aux nôtres. Je me défends de pousser à la guerre, mais je veux être prêt. Si on l'en empêche, je m'en irai, car je ne veux pas que l'armée, et par conséquent la nation, perde la confiance qu'elle a.
Côté allemand, Bismarck joue finement. Il comprend vite que l'affaire relève d'un excès de zèle local. Et cette fois, il n'a aucun intérêt à faire la guerre. Mais il exploite la tension, laisse planer l'inquiétude, puis accepte de reculer. Car le gouvernement français dispose d'un atout décisif. La convocation écrite adressée à Schneebele. Ce document vaut preuve. Juridiquement, l'arrestation est illégale, quel que soit l'endroit où elle a eu lieu. Le 29 avril, le commissaire est relâché, la crise retombe. Il n'y aura ni ultimatum, ni mobilisation, ni guerre. Mais pour Boulanger, quelque chose vient de se jouer. Largement relayé par la presse, l'affaire fait exploser sa popularité. Dans l'Intransigeant, journal farouchement acquis à Boulanger, on lit ceci.
Alors que tous ses collègues du cabinet suent de peur et que le vieux Grévy perd la tête, le général avise immédiatement aux moyens à prendre pour repousser une agression imminente de l'Allemagne. Pour se rendre compte lui-même de ce qui se passe dans la région menacée, il part secrètement inspecter les forteresses et les troupes et fait masser des régiments de cavalerie à la grande colère de Bismarck.
Mais la réalité est tout autre. C'est bien le gouvernement qui a réglé l'affaire sur le terrain juridique. Mais cette vérité-là n'intéresse personne. Dans l'opinion, Boulanger a fait reculer Bismarck. Point. Il incarne la fermeté. Celui qui ose tenir tête à l'Allemagne, et c'est évidemment beaucoup. Quand on a un voisin, comme l'Allemagne précisément, aussi agressif et dangereux.
Dansez, nous dansons souvent au bord du cratère, sur un volcan. À quoi sert notre venue? beau danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. Ni le magma. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Petit bout de chair, danser au bord du cratère.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le général Boulanger.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Le 17 mai 1887, le gouvernement Goblet tombe. Une crise de plus dans une république coutumière du fait. Mais cette fois, l'effet est décisif. Boulanger perd le portefeuille de la guerre. Pire, il est nommé commandant du 13e corps d'armée à Clermont-Ferrand. Officiellement, rien d'anormal. Une affectation conforme à son grade de général. Mais personne n'est dupe. Surtout pas Boulanger lui-même. Il s'agit bien de l'éloigner, loin de Paris, loin de la chambre, loin de la foule. Autour de lui, la riposte s'organise. Paul Déroulède, considéré par de nombreux historiens comme l'un des précurseurs d'un fascisme à la française, mobilise ses troupes au sein de la Ligue des Patriotes, mouvement revanchard, obsédé par la défaite de 1870 qui glorifie l'armée et sacralise la nation. Dans son édito du 8 juillet, le journal L'Intransigeant lance cet avertissement. Les patriotes parisiens feront ce soir, malgré la police, en face d'elle, sous son nez, ils feront ce qu'ils doivent faire. Le soir venu, donc, à 19h15, Boulanger quitte l'hôtel du Louvre. Il doit rejoindre la gare de Lyon. Mais dans la rue, la foule est déjà là, dense, bruyante. Elle l'applaudit, l'acclame, le salue comme un héros. Des chants se font entendre.
Au petit pioupiou de France, faut des ministres chouetteaux. Oh, oh, qu'organisent bien la défense et tremblent pas dans leur peau. Oh, oh. C'est Boulanger, Boulanger, Boulanger. C'est Boulanger qu'il nous faut. Oh, 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 oh.
Le général répond d'un large geste de la main. La voiture démarre au pas, laissant le temps à ceux qui courent derrière de la suivre. 30 minutes plus tard, elle arrive devant la gare de Lyon. Là, la foule est encore plus dense. Et bientôt, le flot se répand dans le hall, déborde sur les quais. Les agents tirent le général au milieu de la cohue, l'emmènent jusqu'à son train. Il s'engouffre dans un compartiment, mais le convoi est encerclé. Oui, la foule se masse le long des quais, jusque sur les rails, et crie « Il reviendra, partira pas !» Le préfet de police de Paris, Lépine, apporte son concours et arrive avec une centaine d'agents. On fait descendre Boulanger de son wagon. Plus loin, une autre locomotive l'attend. Quelques manifestants s'accrochent à la machine, deux se couchent devant. Ils sont aussitôt repoussés. La locomotive démarre enfin. Alors la foule reflue vers la Bastille. À bas le ministère, vive Boulanger. Et ça dure, jusqu'à 2h du matin. Pour la première fois, le boulangisme apparaît comme une force populaire capable de déborder le pouvoir. Dans le journal L'Autorité, on peut lire.
La population a failli faire une révolution. Le salut n'a été dû qu'à une simple locomotive. Quel avertissement pour ceux qui croient le gouvernement à l'abri de toute surprise.
À Clermont-Ferrand, Boulanger arrive épuisé. Il prend officiellement le commandement. Mais très vite, on lui reproche de ne pas jouer le jeu, de multiplier les allers-retours à Paris et surtout les rencontres avec des comités, des militants. Autour de lui, il est vrai, les soutiens s'organisent. En mars 1888, naît le Comité républicain de protestation nationale avec trois mots d'ordre, dissolution, révision, constituante. Députés de gauche et journalistes hostiles au gouvernement s'y retrouvent. Dans l'ombre, d'autres acteurs avancent leurs pions. Des financiers royalistes et bonapartistes qui n'ont pas renoncé à leur rêve de restauration misent eux aussi sur le général pour faire vaciller la République. Le 26 février, pour tester sa popularité, un bonapartiste lance la candidature de Boulanger dans cette élection partielle. Il est pourtant inéligible, puisqu'il est encore militaire en activité. Mais le symbole suffit. Son nom recueille près de 55 000 voix. Dans le même temps, Arthur Dillon, officier de cavalerie et ami du général, orchestre une propagande toute nouvelle, inspirée des campagnes américaines. Des centaines de milliers d'images sont imprimées et diffusées. L'intransigeant offre un portrait du général à chaque lecteur. Dans le Nord, chaque maison presque affiche son portrait. Le 15 mars 1888, il est relevé de ses fonctions pour manquement à la discipline. On lui reproche de continuer de faire de la politique, en uniforme. La nouvelle fait la une. Dans La Cocarde, journal boulangiste, l'événement est présenté comme une persécution politique.
Le premier soldat de France est chassé de l'armée. Les lâches qui avaient tremblé devant lui ont fini par devenir des traîtres. De tous nos soldats, c'est celui dont l'Allemagne avait le plus peur. Le vieil empereur Guillaume, en mourant, avait dit à son petit-fils « Prépare-toi à combattre Boulanger, c'est un redoutable adversaire ». Malgré cela, ou plutôt à cause de cela, Boulanger est révoqué. La France entière protestera. Le patriote peuple de Paris, ce peuple qui a été si souvent écrasé par les canons parlementaires, ne trouve-t-il pas que cette révocation est un crime de lèse-patrie ? Chaque fois que la patrie a été en danger, c'est le peuple qui l'a sauvée. Cette fois encore, il la sauvera. Vive Boulanger !
Dès lors, Boulanger n'est plus militaire, il devient donc éligible. Privé de l'uniforme, il entre pleinement en politique. Et le moment est idéal. Un scandale de corruption a emporté le président Jules Grévy. Son successeur, Sadi Carnot, peine à rétablir la confiance. Bref, le terrain est prêt. Boulanger ne veut ni créer un parti, ni attendre les élections générales prévues dans 18 mois. Il se présente alors à toutes les élections partielles possibles. À chaque siège vacant d'un parlementaire, son nom apparaît. La stratégie est simple, accumuler les victoires, montrer que le pays est derrière lui et mettre la pression sur le régime. Et les succès s'enchaînent. Dordogne, Nord, Somme, Charente. Pour Émile Zola, ces victoires ne relèvent ni du hasard, ni du seul charisme de Boulanger.
Nous n'empêcherons pas que durant 18 siècles, la France n'ait été un pays résolument monarchique. L'échine de tout Français porte le pli de cette longue suggestion. Et nos aspirations vers la République, notre beau rêve d'une nation qui se gouverne elle-même, sont en perpétuel conflit avec ces puissants vestiges d'atavisme. Je n'en veux pas chercher d'autres preuves que dans le spectacle d'erreurs et de bêtises que nous ont offert ces 18 dernières années et qui est bien fait pour désespérer la foule. La foule qui se ressent du malaise et qui pèse sur nous tous et qui cherche à s'en évader, fût-ce pour se jeter dans les bras d'un dictateur.
Dès son entrée au Parlement, Boulanger attaque frontalement. Il réclame la révision de la Constitution et la dissolution de la Chambre. Un bras de fer s'engage avec le gouvernement de Charles Floquet, qui tient bon. Mais le 12 juillet, l'affrontement éclate au grand jour. Boulanger accuse le pouvoir d'impuissance. Floquet réplique et l'accuse de manœuvrer avec les princes. Alors Boulanger riposte, vous mentez. L'accusation est lourde. La séance explose. Jules Méline, le président de la Chambre, menace Boulanger d'une censure. Invité à se reprendre, le général refuse. Il sort alors une lettre, annonce sa démission de député et quitte l'hémicycle dans le fracas. Mais à la Chambre, ce genre d'insulte ne se règle pas seulement par des mots, parce que l'honneur est en jeu. Et, selon le code politique du temps, cela appelle une réparation, autrement dit, un duel. Tout est évidemment calculé. Boulanger transforme la sanction en coup politique. Il se pose en victime du Parlement et mise sur ce qu'il maîtrise le mieux, la rue, l'opinion, le spectacle. Le lendemain matin, à Neuilly, à 10h, curieuses et journalistes se massent devant la propriété d'Arthur Dillon. Boulanger et Floquet se font face, épée à la main. Bon, aucun des deux n'est un grand escrimeur. Mais Boulanger attaque d'emblée. Premier engagement, Floquet touche à la jambe, Boulanger à la main. Normalement, tout le monde s'arrête là. Mais pas Boulanger, non, il exige de continuer. Les épées sont changées. Au second assaut, Boulanger fonce encore. Il effleure Floquet au torse, qui tend instinctivement son épée. Le général, lancé à pleine vitesse, ne s'arrête pas. Il s'empale. La lame lui transperce le cou à quelques millimètres seulement de la carotide. Il s'effondre. Pendant plusieurs jours, on craint pour sa vie. Floquet, lui, parade. À Paris, beaucoup pensent que tout est terminé. Il se trompe. Boulanger guérit de sa blessure et revient toujours plus fort sur le devant de la scène. Cette fois, le combat se joue lors des élections parisiennes. Jules Simon, philosophe et ancien président du Conseil, prophétise dans son livre « Souviens-toi du 2 décembre ».
Son élection à Paris est dès à présent assurée. Puisqu'il y a une bêtise à faire, la ville lumière la fera. Il arrivera avec cette désignation formidable, équivalent presque à un plébiscite. Dans cette situation, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il fasse ce que Louis-Napoléon a fait avant lui? Sur quoi comptez-vous pour l'empêcher? Est-ce sur sa vertu?
27 janvier 1889. Ce jour-là, les Parisiens votent pour une élection partielle. Un siège de député vacant dans la Seine. Bon, rien en apparence qu'un scrutin local, ordinaire. Mais pas pour Boulanger, parce que Paris, non seulement l'épicentre de la vie politique et du régime, mais aussi le bastion de la gauche radicale, de la France révolutionnaire. Tant qu'il n'y est pas élu, la prétention de Boulanger à incarner le pays reste contestable. En tout cas, l'enjeu est immense et la campagne est électrique. Le verdict tombe dans la soirée. Boulanger est élu. Et cette fois, ce n'est pas une province protestataire, c'est Paris. La ville s'embrase, des cortèges se forment, des cris montent, on acclame le général. Dans les états-majors boulangistes, certains n'y tiennent plus. C'est maintenant, disent-ils, il faut marcher sur l'Élysée. Dans l'autorité, le journaliste et polémiste Paul de Cassagnac jubile.
L'espoir revient à tous ceux qui, depuis 20 ans, courbaient la tête et voyaient souiller, fouler aux pieds leurs croyances, leur liberté et menacer leur fortune. En vain essaieront-ils une résistance désespérée. On ne se met pas en travers d'un peuple qui veut marcher en avant. Ils seront brisés. Le président de la République, le Sénat, la Chambre des députés, la presse éhontée qui a mené la campagne, tout cela jonche le sol, tout cela compte parmi les vaincus dont on va ramasser les cadavres.
Le lendemain, 28 janvier, il pleut sur la place de la Concorde. Mais la foule est là, tassée, humide, mais obstinée. On parle d'une invasion de la Chambre. On spécule sur les complicités, sur la garde républicaine, sur la police. Bref, on attend un geste et surtout une apparition. Dans le camp boulangiste, deux lignes s'opposent, cela dit. Ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force et ceux qui misent sur la victoire finale par les urnes. Boulanger le sait. En réalité, rien n'est prêt. Ni les troupes, ni l'administration, ni même son entourage. La ferveur est là, oui, mais l'organisation manque. Alors il recule. Il n'y aura pas de coup d'État. Le château de cartes s'effondre. Et l'ambiguïté du général éclate au grand jour. Aux monarchistes, il laisse espérer une restauration. Aux bonapartistes, un appel au peuple. Aux républicains, la fidélité au régime. Mais tout cela n'est qu'écran de fumée. Reste que du côté des républicains, la menace du coup d'État est prise au sérieux. La gauche et la droite rangent leurs querelles. Parce que désormais, l'ennemi est identifié, Boulanger. Le gouvernement choisit de frapper son principal soutien, la Ligue des Patriotes. Fin février 1889, ses locaux sont perquisitionnés, ses réunions interdites, l'organisation dissoute. Boulanger observe. Il comprend que la nasse se resserre. La répression ne s'arrêtera pas à la Ligue, elle remontera jusqu'à lui. Il risque désormais l'arrestation, une inculpation pour complot contre la sûreté de l'État et un procès politique devant la Haute Cour. Alors, dans la nuit du 1er avril 1889, il quitte Paris discrètement et passe la frontière belge. Le 2 avril au matin, la nouvelle éclate.
Elle est drôle et inattendue. Elle est bien bonne. Hier, quand la nouvelle a éclaté comme une bombe à la chambre, les boulangistes n'y voulaient pas croire. Ils étaient consternés. N'aimant rien exagérer, je me garderai de dire que cette fuite est une lâcheté, mais il est bien certain que le prestige troubadour du général est légèrement atteint. À la première menace d'un choc, voilà que la déroute commence. Le mot d'ordre va être de dire qu'il sera bien plus fort à Bruxelles pour diriger son parti. Et voici déjà M. Meyer qui déclare qu'il restera un phare vers lequel tous les bons citoyens tourneront les yeux. Un phare invisible, c'est coquet. Plus fort qu'avant, M. Boulanger ? Oh non, mes petits.
Chez ses partisans, le choc est brutal. Beaucoup ne comprennent pas. Certains parlent de trahison. D'autres d'erreurs fatales. Le gouvernement, lui, ne perd pas de temps. L'instruction est lancée. L'ex-général est désormais officiellement un inculpé en fuite. À Bruxelles, Boulanger se tait. Il reçoit quelques proches, échange des lettres, lit la presse française. Il croit encore que son absence sera provisoire, qu'il pourra revenir, que l'opinion finira par s'émouvoir. Mais rien ne vient. La campagne des élections législatives de septembre 1889 s'ouvre dans un climat entièrement nouveau. Boulanger est absent, les scrutins sont sans appel. Les républicains remportent la majorité. Le boulangisme subit une défaite nette. Et Boulanger comprend, il n'y aura pas de retour triomphal. Commence alors un temps de retrait et de silence. Le 16 juillet 1891, Marguerite de Bonnemain, sa maîtresse, et son dernier appui meurent. Boulanger s'effondre. Chaque jour, il se rend au cimetière d'Ixelles. Il y passe de longues heures, prostré. Ses proches redoutent ce qu'il confie déjà à demi-mot, le suicide. Le 30 septembre, ce qui devait arriver arrive. En fin de matinée, il se rend comme chaque jour sur la tombe de Marguerite. Et là, il sort son revolver et se tire une balle dans la tempe. Ainsi s'achève, sans témoin, mais avec un certain sens de la mise en scène, on ne s'en étonnera pas, la trajectoire du général Boulanger. Mais la mort ne referme pas immédiatement le chapitre. Le 3 octobre, une foule immense se presse au cimetière d'Ixelles. On parle de 150 000 personnes. Un testament politique est retrouvé qui montre que jusqu'au bout, Boulanger aura soigné son image. Écoutons.
Ceci est mon testament politique. Je suis convaincu que mes partisans si dévoués, si nombreux, ne m'en voudront pas de disparaître. Qu'ils continuent donc la lutte contre ceux qui, au mépris de toute l'égalité, me font mourir loin de ma patrie. Je serai mort demain. Aujourd'hui, je dis bien haut que je n'ai jamais rien eu à me reprocher. Toute ma vie, j'ai fait mon devoir. L'histoire sera sévère pour ceux qui ont essayé de flétrir un loyal soldat par un jugement politique. Je me plais à rappeler ici que j'ai offert de me constituer prisonnier si l'on voulait me donner des juges de droit commun, mais que toujours ceux qui détenaient le pouvoir ont refusé, sachant bien que mon acquittement était certain. En quittant la vie, je n'ai qu'un regret. Ne pas mourir sur le champ de bataille, en soldat, pour mon pays. Vive la France, vive la République. Général Boulanger.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le général Boulanger, notre invité Bertrand Joly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur de l'ouvrage intitulé « Aux origines du populisme, histoire du boulangisme », un livre publié en 2022 aux éditions CNRS. Vos travaux portent sur la naissance du nationalisme français et sur les crises politiques de ces régimes, en particulier le boulangisme. Et alors, votre travail se distingue par une approche très documentée, qui déconstruit un certain nombre d'idées reçues sur le général Boulanger, sur son mouvement, sur la menace qu'il aurait fait peser sur la République. Alors, quand on parle de boulangisme, selon vous, de quoi parle-t-on exactement ?
On parle d'un mouvement polymorphe dont on a, à mon avis, ce n'est que mon avis, surestimé le danger pour la République. Boulanger n'a jamais été en capacité de prendre le pouvoir. Pour des raisons simples, c'est que vous avez rappelé tout à l'heure cette suite de succès électoraux en 1988, qui est en effet étonnant. Et trop étonnant, il a obnubilé, il a aveuglé aussi bien les partisans que les adversaires de Boulanger, et on dissimule le fait que dans d'autres élections, Boulanger a été battu, et même sévèrement battu, et que toute une partie de l'opinion était totalement rétive au boulangisme et à celui qu'il incarnait. Ça explique la défaite finale. Le gouvernement, finalement, a très bien manœuvré face à un adversaire qui, lui, a très mal manœuvré et dont la force était totalement surestimée.
Donc, on pourrait dire que Georges Boulanger n'était pas un stratège politique, c'était un homme porté par les événements.
Il a deux choses en lui. Il y a, bon, je ne parle pas de l'officier qui était compétent, incontestablement. Il y avait un homme ordinaire, une intelligence ordinaire, et puis il y avait un véritable génie de la communication.
Ah bah oui, absolument.
C'est ça qui fait que Boulanger a été Boulanger et que son histoire a pu se développer. Boulanger a pratiquement un siècle d'avance sur son temps. Il sait parler, il sait se mettre en scène, il sait s'adresser aux Français, il sait dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et ça, c'est une arme fantastique.
Et il sait occuper le terrain. Vous savez, on appelle ça aujourd'hui le tapis de bombe informationnel. C'est-à-dire qu'on occupe le terrain, on parle tous les jours, on dit tout, parfois n'importe quoi.
Absolument.
Ça rappelle beaucoup M. Trump, ça.
Oui, c'est une sorte de saturation médiatique. Qu'importe ce qu'on dit de moi, du moment qu'on parle de moi.
Ouais. Alors, le sentiment vis-à-vis de la République, à ce moment-là, bon, il n'est pas arrivé à maturation comme aujourd'hui, évidemment. On parle encore de la gueuse, il y a les bonapartistes, il y a les royalistes. Qu'est-ce que cette double nostalgie, quelle place occupe encore cette double nostalgie dans la vie politique à ce moment-là ?
Bien, je pense que les royalistes de l'époque, comme les bonapartistes, n'ont plus beaucoup d'illusions sur leur chance de restaurer l'Empire ou la royauté. Mais ils gardent un pouvoir. D'abord parce qu'ils sont à l'époque les seuls porteurs de l'opinion catholique.
Ouais.
Même si beaucoup de catholiques se sont ralliés en fait discrètement à la République, les bastions catholiques votent pour la droite. Et ce qui donne à la droite encore une puissance, doublée d'une puissance économique et financière. Si Boulanger a pu être subventionné par les royalistes, surtout, et à un niveau sans précédent, on parle de millions de francs, c'est parce que la droite a encore une vraie puissance économique, que la gauche n'a pas encore, n'aura peut-être jamais, mais en tout cas, qui fait que la droite occupe encore dans l'espace politique une place bien réelle.
Est-ce qu'un personnage comme Adolphe Thiers est un peu le symbole de ça ?
Non, Thiers, à la fin de sa vie, s'était rallié à la République.
Et
il a beaucoup fait, même d'ailleurs, pour l'instaurer. Aujourd'hui, Thiers est considéré comme un affreux.
Oui, avec la répression de la Commune.
Oui, on oublie qu'en son temps, il a été extrêmement populaire, il est apparu comme un sauveur même. Car la Commune, on peut dire sans trouble, que la majorité des Français n'en voulait absolument pas.
Bien, et on rappelle qu'il était le premier président de la Troisième République.
Exactement.
France Inter. Affaires sensibles.
Bertrand Joly, à l'époque de l'histoire que nous avons racontée, celle de Boulanger, on a tous en tête le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, Jules Simon a intitulé son livre « Souviens-toi du 2 décembre ». Est-ce que les rumeurs de coup d'État qui courent à ce moment-là sont sans fondement ?
Globalement, oui. Il est vrai qu'on a proposé un coup d'État à Boulanger à 2 ou 3 reprises. L'exemple le plus connu, c'est le choix de l'élection parisienne. Mais Boulanger a toujours refusé. Et pour des raisons complexes qui tiennent au fait que, d'abord, Ils sont évoqués son père, qui était important, un homme de droite, mais qui n'avait jamais pardonné à Napoléon III le 2 décembre. Mm-hmm. Le coup d'État, c'était le viol de la légalité. Beaucoup de gens très modérés n'avaient pas accepté cette violence. Et puis, surtout, Boulanger est un réaliste. Il sait très bien que ses chances sont absolument nulles. Ouais. Un coup d'État, ça ne se fait plus comme autrefois, une journée à Paris victorieuse, un coup heureux comme en 1830-1848. Cela, c'est fini. La Commune l'a montré. Maintenant, il y a des trains, on peut amener de province des renforts très rapidement. La province n'est plus exclue du jeu politique comme elle était avant, donc les chances de Boulanger sont extrêmement faibles. Et enfin, ce fameux 27 janvier, devant le restaurant où Boulanger fête sa victoire, il n'y a pas la grande foule, contrairement à ce qu'on l'a dit. On a les rapports de police, les dépêches des commissaires d'un arrondissement qui, en permanence, pratiquement, dès qu'il y a toutes les 10 minutes, pratiquement, envoient à la préfecture une dépêche disant les situations bloquées ou les boutons ne passent plus. À aucun moment, place de la Madeleine, où il se trouve, la circulation n'a été interrompue. Les incidents, les vrais, ont eu lieu en fait dans le quartier des journaux, c'est-à-dire dans le 9e arrondissement. C'est là que, par moment, il y a eu en effet des affrontements, assez légers d'ailleurs. Il n'y a jamais eu une ambiance révolutionnaire à Paris, ni à ce soir-là, ni les précédents.
D'ailleurs, il y a une dichotomie entre la notoriété du général Boulanger, alors tout le monde ne sait pas ce qu'il a fait, mais général Boulanger, ça dit quelque chose, de toute façon, et son histoire qui fait pchit.
Oui. Oui.
C'est étonnant comment expliquer ça.
Parce que la République a eu peur, je crois, d'une part. Et elle a réagi avec une énergie, parfois sans trop de soucis de la légalité ou de la moralité, ça c'est sûr. Il a été liquidé de façon énergique. Mais aussi parce que le boulanger, c'est le boulangisme, ça a été la première crise réelle de la République. C'est pas la dernière. C'est un régime qui n'a connu que des crises, en fait.
Oui.
Mais le boulanger, c'est la première... Dire que c'est le début du populisme serait excessif.
Ah, j'allais vous poser la question, justement.
Mais le populisme, vous savez, existe dès qu'il y a compétition pour le pouvoir dans un groupe, dans une société.
Ouais.
Avec la tentation de s'adresser à la foule pour combattre le pouvoir. Donc, populisme, Napoléon III l'a été. Pour devenir président de la République, il a réellement appuyé sur les thèmes tout à fait populistes. Mais Boulanger, lui, va pousser peut-être le système à un point de quasi-perfection. Il va réussir à sourire à la droite, à l'extrême gauche, et à rassembler tous les mécontentements qui étaient totalement contradictoires, vous l'avez dit. On ne pouvait pas imaginer que gouverneraient ensemble Henri Rochefort, l'ancien communard, et le marquis de Breteuil, royaliste Montaigne. C'était inimaginable. Mais Boulanger a réussi à les faire marcher du même pas pendant un petit moment, pas longtemps. Et ça a donné au populisme une force puissante qui fait que ça s'est retrouvé après, à plusieurs reprises, au moment de la Dreyfus, on va retrouver des thèmes semblables. Et plus tard, dans la France des années 20 et 30, également, le populisme va être également manipulé. Brandi haut et fort par tous ceux qui veulent détruire un pouvoir qu'ils jugent néfaste.
Oui. Alors, justement, quand même, vous dites Boulanger a laissé une trace parce que la République a eu peur. C'est dû au fait qu'elle est jeune quand même à ce moment-là. Elle a 15 ans. 16
oui,
ans.
Elle est jeune et beaucoup pensent qu'elle n'a pas pris encore ses plis définitifs. Nous, nous savons qu'elle les a pris. Mais eux, ils ne le savent pas, et c'est normal d'ailleurs. Beaucoup de beaux esprits pensent que la République doit se réformer. Que ces structures établies un peu à la hâte, par un compromis droite-gauche, étaient provisoires. Il s'agissait à l'époque de sortir d'un état provisoire de la guerre et enrayer la remontée bonapartisme. Donc, royalistes et républicains ont fait un accord boiteux.
C'est formidable quand même, oui. cet accord contre nature. Il y avait eu, dites-moi si je me trompe aussi, un accord contre nature de ce genre-là pour l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, entre les républicains, entre les bonapartistes et les royalistes.
En effet, oui.
Et ça, c'est incroyable.
Ben, Monsieur Thiers, qui à l'époque était royaliste, avait dit du prince président candidat, c'est un crétin que l'on mènera.
Oui, c'est vrai.
C'était une erreur totale. C'est le crétin qui les a menés, en fait.
Bien sûr. Alors, les grandes figures du populisme en France, on va faire un saut dans le temps, sous la 4e République, le poujadisme est un populisme ?
Bien sûr. Et c'est même peut-être la perfection, d'une certaine façon, du populisme,
ouais.
Par son allure. Le tempo, les thèmes, son côté débraillé, vulgaire, agressif, sombrant peu à peu dans l'antisémitisme assez nauséabond. Non, le poujadisme, oui, c'est la perfection du populisme, en quelque sorte.
Voilà, et l'héritier naturel, c'est Jean-Marie Le Pen.
Oui, on pourrait citer Bernard Tapie aussi.
Oui, allez-y sur Bernard Tapie, tiens. C'est-à-dire que c'est un homme qui arrive en nous disant, en gros, ben, ils sont tous nuls, quoi.
Oui, une grande gueule qui croit qu'on règle tout avec des billets de banque et des coups de poing sur la table et des remèdes de café du commerce.
Ouais. Alors, on va redéfinir le populisme tel que vous le voyez, vous, en quelques lignes. C'est quoi le portrait du populisme? Alors, on a dit, hein, c'est la rencontre d'un homme, c'est rarement une femme, d'un homme et du peuple. On passe par-dessus les partis, par-dessus les corps constitués. Oui, c'est ça, oui, en fait, le populisme.
Tout à fait. En fait, on pourrait le simplifier d'une expression, les petits contre les gros. La revanche,
ouais, c'est ça.
Des 100 grades contre l'élite qui dirige.
Alors, on va en arriver à la période contemporaine, avec un paradoxe. Alors, on va essayer de détricoter tout ça. En 2018, Emmanuel Macron déclarait devant un parterre de maires « Nous sommes de vrais populistes parce que nous sommes avec le peuple tous les jours ». Alors, c'est ce que certains politologues qualifient de populisme couronné, c'est-à-dire une posture politique qui consiste à désavouer les élites politiques traditionnelles en dénonçant le système de partis existant et, alors, en tant que chef de l'État, en se réclamant directement du peuple contre les élites, tout en combattant les extrêmes, LFI et RN, en l'occurrence. Est-ce qu'Emmanuel Macron serait un populiste contre le populisme?
Non, je crois qu'il y a une partie de pause dans ceci. C'est la rhétorique.
Oui.
D'autres se disent populistes. M. Mélenchon, lui aussi, a se vante d'être populiste. Mm. Mais faire appel au peuple contre les élites ou contre les extrêmes, ça, je l'ai fait souvent. En fait, le gaullisme a aussi...
J'allais vous le dire, le gaullisme, oui, c'est aussi ce rapport entre l'homme providentiel, oui, et le peuple.
Oui. Et puis, il y a aussi des populismes sans homme providentiel. Le Parti communiste a été un fort de populisme un peu anonyme, si je puis dire.
Alors, toute dernière chose, certains politologues ont sorti la notion de l'extrême-centre, théorie développée par Alain Gérard Slamat en 1980, dans son livre « Les chasseurs d'absolu », puis repris par l'historien Pierre Cernat en 2005. Quelle signification vous donnez, vous, à cette expression d'extrême-centre?
J'avouerais que je suis un petit peu...
C'est compliqué à comprendre, quand même, l'extrême-centre.
Je suis un peu perplexe et pas très convaincu par cette notion. Oui, il y a une sorte de modération un peu transcendante, si je puis dire. Ce que je vois bien pendant la Révolution, qui a servi à bâtir le concept, c'est qu'en effet, des hommes, à travers toutes les vicissitudes, les renversements et les coups excessifs d'un côté ou de l'autre, ont toujours défendu une ligne, finalement, assez centriste, raisonnable. Un homme comme Talleyrand a pu passer un peu pour l'incarnation de l'extrême-centre.
Ouais.
J'avoue, est-ce que c'est très opératoire? Je ne sais pas.
Bon, ça reste une expression pour l'instant. Merci infiniment, Bertrand Joly.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et Affaires Sensibles, aujourd'hui, le Général Boulanger, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait David Dibouet-Black.